Bienvenue dans l'heure du documentaire, une heure au féminin, avec la proposition d'une rencontre avec la première des premières, Madame Claude Pompidou. Ce documentaire, enregistré en 2007, peu de temps avant son dernier voyage, a permis à David Arthur de découvrir une femme qu'il qualifie d'inoxydable. Devenue première dame, celle qui aurait dû se contenter du rôle de dame d'œuvre brise les habitudes. Vêtue de Chanel ou Yves Saint Laurent, elle introduit la peinture contemporaine à l'Élysée, comme au fort de Brégançon et à l'hôtel de Marigny. Aujourd'hui, Claude Pompidou figure avec 23 premières dames dans une exposition organisée au mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Ce qui a importé à David Arthur, c'est qu'en 1970, Claude Pompidou a créé une fondation regroupant un réseau de bénévoles qui, à travers la France, interviennent à domicile ou en institution auprès de personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou le grand âge.
Allez, tu montes dans la chambre.
Venez, c'est ici, c'est chouin.
Ah, mais elle est sympa ta chambre. Oh, t'as une super vue sur la tour Eiffel, dis donc.
Ouais. Ici, c'est les trains.
Les trains. T'aimes les trains, toi?
Regarde, c'est les trains, ils passent là.
Tu les aimes, les trains?
Tu vois, là-bas, c'est la gare.
En fait, j'aime bien les trains.
Eh, il y a des gares, hein? Il y a grande gare là-bas. T'entends le bruit?
Madame Claude Pompidou, la première des premières.
Qu'est-ce que tu aimerais? Tu voudrais qu'on joue à un jeu, Monopoly, ou qu'on aille se promener, se balader? Qu'est-ce que tu auras envie?
Tu vois, il repart.
Ah oui, il repart. T'aimes bien regarder les
trains? Il va freiner. Tu freines, là.
C'est Alex, il aime bien regarder les trains.
Quoi ça?
Il a un jeu.
Il va repartir, là, il y a la farine.
Un jeu à l'ordinateur.
Ah bon? Tu veux me faire voir le jeu sur l'ordinateur?
Oui, pas parce que moi, il sait pas comment il fait.
Tu vois, il va repartir que ça.
Alex, si tu veux, t'as qu'à aller lui montrer le jeu.
Tu veux me montrer le jeu, Alex?
Ouais.
Allez, viens.
C'est un de nos espaces de jeux les plus élaborés.
Regarde.
Ah oui?
Tu vois, c'est le cassonne.
Ah ouais?
C'est pour dire, poussez-vous. Laissez-moi passer.
Oh, t'as sûr, regarde, t'as le pont qui se lève.
Et tu vois, il s'arrêtait là.
T'as un canard jaune qui passe.
Tu vois, il s'arrête là.
Ouais.
Et après?
Première dame d'un monde moderne, bâti sur les ruines encore fumantes des barricades de mai 68, Madame Claude Pompidou aurait pu être cette femme que le destin s'amusait à vouloir enfermer en maîtresse de maison à l'Élysée et en ambassadrice de la mode française sur les tarmacs des gouvernements étrangers. Mais comme les Bretons ont la tête dure et que bon sang ne saurait mentir, rentrer sous les ordres de la République ne deviendrait pas son unique existence. Et s'engageant dans le combat social dès les années 50, elle n'eut de cesse de moderniser l'action de ce que l'on appelait alors les dames d'œuvre. Ne lâchant jamais le cap, la fondation qui porte son nom et qu'elle dirige au quotidien avec la fougue et la vitalité des inoxydables, se bat pour faire reculer l'isolement des personnes en situation de dépendance physique ou psychique et de leurs familles. Ainsi, les personnes âgées, les malades hospitalisés et les enfants handicapés trouveront toujours un bénévole de la Fondation Claude Pompidou pour les épauler et dialoguer avec eux. Après avoir créé 15 établissements pour personnes âgées et handicapées et une maison pour enfants à caractère social dotée d'une école hôtelière, cette femme qui préfère se faire rare nous ouvre ses souvenirs et nous livre ses préoccupations.
Je me suis éduqué sans mère, toute seule. Enfin, il y a eu des gouvernantes. Enfin, je n'ai pas été éduqué vraiment en famille avec un père qui était débordé, qui n'était jamais là. Et à ce moment-là, on se fabrique soi-même. Et on devient plus entier, fatalement.
Quelle éducation votre père vous a donnée?
Pas beaucoup, parce qu'il était toujours par mons et par vaux pour soigner les gens. Il était quelqu'un qui soignait les gens qui n'avaient pas d'argent, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de sécurité sociale, comme vous le savez. Chacun se faisait soigner avec ses propres moyens ou pas du tout. Et ben, il ne faisait pas payer les gens qui n'avaient pas les moyens. Il y en avait qui en profitaient un peu d'ailleurs. C'est une maison très ouverte. Comme doit être une maison de médecin en campagne, enfin petite ville. On n'est pas enfermé comme à Paris, chacun dans son appartement. C'est plus ouvert, les maisons de province.
En lisant votre livre, on s'aperçoit que dans les années 50, c'est à ce moment-là que vous décidez d'aller aider les personnes les plus démunies et vous partez par vous-même dans le quartier de la rue Mouffetard. Oui. Quels souvenirs vous gardez de cette époque?
Nous étions quelques amis Ça s'appelle des dames d'œuvre. On avait décidé d'aller rue Mouffetard, c'était effrayant à l'époque, vous ne pouvez pas savoir. C'était des complètement délabrés, et là, il y avait beaucoup de gens très pauvres et n'ayant pas les soutiens que tout le monde a maintenant, parce que tout le monde respecte, mais il y a quand même beaucoup de soutien. Donc les gens étaient livrés à eux-mêmes, et puis même en plus, il y avait pas mal de gens un peu alcooliques. Alors, disons qu'on allait leur faire des visites. Ça fait un peu bizarre, mais on ne pouvait pas faire autrement. Ils s'habituaient à ces visites, alors on leur apportait des provisions, des conseils, on les écoutait un petit peu. Les gens aiment beaucoup expliquer leur cas.
Et c'est important de tendre une oreille aux gens qui n'ont rien.
Oui, oui. Et quelquefois, ça n'avait aucun intérêt, mais ça ne fait rien. Les gens avaient l'impression qu'on s'occupait d'eux, et éventuellement, on pouvait leur donner des conseils. Et ça, c'est il y a bien longtemps, et la rue Mouffetard a bien changé, pour le meilleur.
Y a-t-il des soirs où vous rentriez totalement abattu et dépité ?
Oh non, non, c'est pas mon genre. Pas satisfait, disons, mais pas abattu. Je suis pas comme ça, je n'y ai aucun mérite, hein. C'est tant mieux.
Donc vous êtes plutôt une battante optimiste ?
Ah oui, optimiste, moyennement. Je vois les choses assez clairement. Je ne suis pas forcément optimiste. C'est assez normal, au fond.
Mais vous êtes quand même quelqu'un qui va de l'avant.
Ah ben oui, alors ça oui, oui, c'est vrai. Je suis un peu battante.
Si on vous ferme une porte, vous rentrez par la fenêtre ?
Pas forcément, ça dépend de l'ambiance. De l'ambiance que je vais trouver.
Bonjour, Simone. Qu'est-ce qui se passe?
Un peu.
Hein?
Même dans mon sort, c'est un petit peu avec vous. Je s'adore sur moi.
Asseyez-vous bien.
Je reste là. Non, parce que c'est pas droit, tout seul, et puis je pleure. Elle se pleure de flamme, s'il vous plaît. Donc je préfère Violaine me sortir un petit peu.
Vous sortir?
Oui.
Mais il fait un peu froid,
oh,
dehors.
Non, il fait pas froid. Non, il fait pas froid. Moi, je s'attends qu'il fait pas froid, j'ai peur. Mmh. Alors, hein?
Vous avez peur de quoi?
Vous voyez, regarde-moi, ça fait mal. Et là, on me l'a mis là. On me l'a mis là aussi, ça fait mal.
Mais vous n'avez plus des oui, vous n'avez rien?
Aussi, aussi. Laissez-moi partir avec moi. Vous serez sortis.
Attendez. On va vous mettre bien.
Non,
bien, vous n'êtes pas bien.
Non.
On va vous donner le goûter tout à l'heure.
Sinon. Bon, hein? Et vous venez me voir.
Oui, je viendrai.
Je serai contente de vous voir. Avec plaisir.
Moi aussi, Simone.
Là, vous venez pour m'apporter quelque chose.
Oui, hein? Je viendrai.
J'ai peur.
Je vous fais. Bon, allez, on va aller chercher
Comment vous êtes arrivée, Maria-Hélène Heilbronn, à devenir bénévole au sein de la Fondation Claude Pompidou?
J'avais fait du bénévolat avant, quand j'habitais en Espagne. Et c'était un bénévolat différent, parce que c'était un service d'oncologie pédiatrique. Et je voulais faire la même chose à Paris. Donc je me suis renseignée. Ça a été un petit peu difficile de trouver le même type de bénévolat. Mais donc je suis allée à l'espace bénévolat, et là on m'a donné une liste d'associations que j'ai contacté, et donc je suis allée à la Fondation Claude Pompidou, et ça m'avait plu la manière comme la Fondation était organisée et les choses qu'ils proposaient pour les bénévoles, et donc je suis décidée de m'engager dans le bénévolat pour les personnes âgées, et c'était la première fois que je faisais ça, donc c'était un tout nouveau pour moi. Oh, et puis malheureusement, les personnes âgées dans la société actuelle, elles sont très, très abandonnées, en fait. Je pense que quelque part, ça doit faire peur à beaucoup de gens, parce que ça nous met en face de notre propre vieillesse.
Madame Pelé, on va faire un loto.
Là, je veux pas clair, alors.
Non, mais vous allez m'aider. Je vais vous distribuer les jetons. Je peux vous donner. Alors, je vais vous donner un chocolat tout à l'heure.
Oui.
Mais
oui.
Vous m'aidez à faire ça, regardez.
À journée ça?
Oui. Avec. Voilà, merci. Merci. Voilà. Alors, on démarre avec le 3.
Qu'est-ce que vous me donnez ?
Ah oui !
Vous nous parliez tout à l'heure du terme dame d'œuvre qui aujourd'hui a disparu. Il y avait un côté péjoratif à l'époque ou pas du tout ?
À l'époque, pas du tout, mais depuis, entre-temps, oui. On a un peu ridiculisé les dames d'œuvre qui portaient une orange à l'hôpital. C'était un peu ridicule parce que c'est pas assez organisé. C'est un peu. Moi, j'aime pas les choses qu'on fait comme ça en l'air. Il fallait que ce soit un peu organisé, mis en œuvre, ce genre de choses. Sinon, alors, c'est le jour où vous avez envie, vous y allez, le jour où vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. C'est tout le problème du bénévolat. Nous, nous demandons justement un engagement sur l'honneur d'un an aux bénévoles, de manière régulière. Une demi-journée par semaine, attention, c'est pas tous les jours. Mais ça n'a l'air de rien. Mais c'est un engagement qui vous prend assez, parce que si vous avez une demi-journée par semaine à donner pour aller voir un enfant handicapé qui habite pas forcément en bas de chez vous, ça vous prend du temps, et puis vous êtes obligé de, sur place, de voir les parents, de voir l'enfant, enfin, ça prend plus de temps qu'on ne le penserait au premier abord. Donc il faut déjà avoir un caractère régulier, qui n'est pas à regarder sa montre, pour savoir si c'est l'heure de partir.
C'est quoi ça? Ah, sympa le cirque.
Tu es là? Je suis là, en double.
Ah ouais? T'es déjà allé voir un cirque?
Je suis allé le voir plein de fois.
T'es allé le voir le plein d'air?
Ouais.
Ah, super.
Plein de fois je suis allé.
Donc t'as vu les animaux, les tigres?
Ceux-là aussi.
D'accord, les clowns? Qu'est-ce qu'il
y a? Ah, ceux-là, Alex, tu peux lui mettre ça devant, il va rigoler là.
Ah ouais?
C'est ça, c'est un truc c'est rigolo.
Qu'est-ce que tu préfères au cirque? Tu préfères les acrobates, les clowns, les dompteurs?
Les clowns.
Les clowns, hein, c'est sympa les clowns. Hein.
Non mais l'autre, il fait n'importe quoi.
Ah bon? Tu voudras me le montrer? Ouais? T'as envie de le voir? En fin de compte, la première des choses, c'est une première réunion où on explique ce que veulent d'abord, de quoi a besoin la fondation et ce que nous, on recherche aussi. Il faut qu'on soit en adéquation. Et puis ensuite, si ça nous intéresse, on a un entretien individuel où là, on est un peu plus testé, on va dire. Et donc, en fin de compte, les tests se font du côté bénévole, mais aussi du côté des familles. C'est-à-dire que des familles où ça serait un peu trop lourd, on ne peut pas envoyer des bénévoles qui n'ont pas forcément la formation. Donc, en fin de compte, c'est des deux côtés que ça se passe. Notamment, on m'avait expliqué un exemple où il y avait une famille qui avait une personne handicapée. Et dans cette maison, il y avait plein de chats. Donc, d'avoir fait l'enquête auprès aussi des familles, c'était quelque chose d'intéressant parce que au niveau des bénévoles, on n'envoyait pas n'importe qui. Par exemple, des gens qui étaient allergiques aux chats, des choses comme ça.
Oui, donc finalement aussi, au sein de la fondation, on s'intéresse au bien-être du bénévole.
Aussi, oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour que les enfants ressentent quelque chose, pour ressentir un bonheur, il faut aussi que le bénévole ressente un bonheur. Il faut qu'il y ait quelque chose en adéquation comme ça. Pour que ça fasse une fusion pour qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire que si le bénévole dit, tiens, cette mission était très sympa, j'ai senti quelque chose qui se passait et ça peut faire évoluer le gamin, et ben du coup, on se remettra dans cette mission. Voilà. Malgré que la politique de l'association, c'est surtout d'essayer de faire tourner un maximum les bénévoles afin que les enfants voient de nouvelles têtes. Et,
Je vais aller chercher quelque chose.
D'accord. Alors c'est quoi? Ah mais super, t'as la PS, c'est quoi? PS2, c'est ça?
T'as vu? T'entends?
Ah ouais? Et tu chantes dessus? Tu connais les paroles?
Quand votre mari devient Premier ministre, vous ne pouvez plus aller rue Mouffetard avec les dames d'œuvre.
Ah ben non, même pas.
Comment s'opère votre engagement auprès des plus démunis dans cette période?
À ce moment-là, j'ai commencé à penser sérieusement au bénévolat, à un bénévolat futur. Mais que je n'ai pas mis en œuvre comme ça, parce que ce n'était pas commode. Ce n'était pas facile à mettre en œuvre. Donc, j'ai rendu service comme ça à des gens au hasard, mais je n'ai pas fait fonctionner le bénévolat exactement comme maintenant.
Oui, c'est une période où vous n'aviez pas la liberté de pouvoir aller...
Ben, vous savez, on tombe là-dedans tout d'un coup. Mettez-vous à la place des gens. tout d'un coup, on devient l'épouse du Premier ministre. Bon, ça, c'est pas que ça m'épate follement, c'est pas ça, mais c'est qu'on est quand même dans un autre univers. On n'a plus la même liberté de faire les choses, même de penser. Ça prend un certain temps. En tout cas, j'ai pas pu réaliser grand-chose sur ce plan-là, à cette époque.
À quel moment vous avez-vous senti que vous aviez des chances de devenir première dame de France ?
Oh ben, en mai 68. Mais enfin, je ne sais pas. J'avais toujours craint un peu la chose.
Quand vous arrivez à l'Élysée, vous vous retrouvez avec un bureau, puisque vous êtes première dame de France. Est-ce que vous vous souvenez du type d'aide qu'on vous demandait au début, du type de lettres que vous receviez au début des années 70 ?
Oh ben ça, on recevait des quantités de lettres tous les jours, demandant les choses les plus invraisemblables et aussi quelquefois des choses valables. Alors il s'agit à ce moment-là de bien sûr tout lire et surtout de répondre à tout le monde. Même si c'est des choses invraisemblables, parce qu'on vous demande de l'argent pour payer son loyer, n'importe quoi, je ne peux pas vous dire, c'est aberrant. On répond en essayant de donner un encouragement ou un conseil, ou envoyer la personne à l'assistante sociale la plus proche. Oui, enfin, on fait des travaux d'approche, et si par hasard il s'agit d'une situation où on peut faire quelque chose administrativement parlant, et si cette chose est importante, on engage la démarche.
Oui, mais parce que, vu de l'extérieur, l'Élysée est un endroit où on se dit que tout est possible et qu'il y a une toute-puissance.
C'est une énorme erreur. Non, c'est pas du tout vrai. Ou du moins, ne l'avons-nous jamais exercé. Mais je crois pas que ce soit possible. C'est plus raisonnable que ça, quand même. C'est, vous dites ça comme justement les gens écrivent au Père Noël. Il y a même des gens, quelquefois, qui n'attendent qu'une réponse. Et si cette réponse est négative, ils sont quand même contents parce qu'ils ont eu une réponse. C'est très curieux. Voilà, ils continuent dans leur malheur ou leur ennui, mais ils ont eu une réponse.
On va s'asseoir. Je viens pour accompagner les résidents et puis avec le temps on fait connaissance de l'équipe soignante et c'est oui quelque part on travaille un peu en équipe parce que dès qu'on arrive on se dirige vers eux pour savoir s'il y a une personne qui aurait besoin d'une écoute spéciale ou si ils souhaiteraient ou on demande aussi la permission, leur avis pour faire par exemple une séance de musique pour leur faire écouter la musique, voire ce sont eux qui nous indiquent qui seraient les résidents qui pourraient bénéficier de l'activité qu'on va faire cet après-midi. Et alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils s'oublient très vite du moment qu'ils sont passés avec nous.
C'est dur pour vous ?
Non. Disons que c'était dur au départ d'apprendre à communiquer, d'apprendre à être face à eux et de les écouter. C'est parce que parfois c'est surprenant, on est en train de parler de quelque chose et puis tout d'un coup ils nous disent « Maintenant je dois vous quitter parce que je dois rentrer chez moi, ma mère m'attend. »
On va gagner un chocolat. Voilà, 44 alors. Il ne vous manque plus qu'un. 81. Anita, 81. Et le... Madame Sidbon.
Pardon, excusez-moi.
Quel numéro c'est celui-là?
Attendez. Je lis très mal, mais... Sur lui. 80.
Alors?
Oui. 80.
Et voilà. Alors?
Ça y est, celui-là.
Voilà, on a une gagnante. Est-ce qu'on gagne?
80. 80.
Voilà.
8-0.
Madame Sidbon a gagné.
Oui, merci. Ah, ça fait plaisir.
Oui.
À quel moment dans votre parcours vous vous êtes dit qu'à votre tour, vous pouviez ériger votre propre fondation?
Ben, c'est arrivé au moment de l'élection de mon mari, puisque nous avions décidé, l'un comme l'autre, de faire quelque chose en dehors du travail du métier, si on peut dire, en parlant de la présidente de la République. Nous avions décidé de faire en dehors de ça, chacun, quelque chose d'autre. Vous savez que pour mon mari, ça a été le centre Pompidou qui est par la fenêtre, là. Et pour moi, je me suis dit, je vais faire une fondation pour le bénévolat, enfin pour une fondation utile.
Quand vous avez déposé les statuts de la fondation et que vous êtes rentré...
Septembre 70.
Et que vous êtes rentré dans le bain du bénévolat, mais de votre propre fondation... Quel combat est apparu immédiatement? C'était les personnes âgées ou les enfants handicapés?
Ben justement, il y avait une question de choix. Parce que les choix changent. Maintenant, ce n'est plus les mêmes choix. À l'époque, c'était les enfants handicapés moteurs cérébraux. En passant aux familles, vous imaginez le sort des familles qui ont des enfants dans cet état. Alors ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour ces personnes-là. Et puis, les personnes âgées. Maintenant, les personnes âgées sont très entourées, pas suffisamment, jamais assez. Mais à l'époque, non. Voilà ce que j'ai choisi en pensant aider les plus démunis, en l'occurrence.
Ça a été difficile au démarrage. Vous avez eu des problèmes avec les responsables des hôpitaux?
Ah oui, ça a été très difficile au départ. Et c'est là que mon mari m'a dit de me mettre en contact avec le directeur de l'assistance publique, qui a été très bien parce que, au point de vue du bénévolat, je lui ai dit ce que je voulais faire. Il ne pouvait pas vraiment me donner l'autorisation du bénévolat. Ça n'était pas dans ses statuts. Mais il m'a laissé faire, en étant au courant de ce que je faisais. Parce que c'était très difficile, parce que les syndicats croyaient qu'on prenait une place. Que le bénévole était quelqu'un qui aurait pu être un salarié. C'était ça la base de la... On a même eu un volontaire qui a eu sa voiture brûlée dans la cour de la Salpêtrière. C'est vous dire que...
Donc, toute première dame de France que vous étiez, l'administration vous a mis des bâtons dans les roues.
C'est pour ça que vous vous trompez quand vous croyez que les ont fait tout. Non, mais ça est... Dieu merci, il faut en passer par les règles de tout le monde. On n'est pas en monarchie, hein. Je vous signale.
Mais je suis au courant. Une chose qui est assez amusante, c'est quand, au démarrage de la fondation, vous partez aux États-Unis, enfin, vous partez pour les États-Unis, étudier leur bénévolat.
Oui.
Vous trouviez le nôtre obsolète. Qu'est-ce qui s'est passé?
Obsolète, il n'y en avait pas.
Bon,
il n'y avait rien d'établi. Oui. Il y avait des petites choses par-ci, par-là, mais il n'y avait pas de règlement général, et je savais comment ça marchait aux États-Unis parce que j'ai des amis là-bas et que des dames qui ont se croient en tout cas obligées de donner de leur temps, et c'est toujours pareil d'ailleurs, très régulièrement dans un hôpital ou dans... C'est tout à fait organisé. Je me souviens d'un hôpital où il y avait 25% de bénévoles qui, si s'étaient mis en grève, il aurait presque fallu fermer l'hôpital. C'est un degré, mais ça marche en Amérique. Ça marche dans les pays anglo-saxons. Dans nos pays latins, c'est pas du tout la même chose. C'est un autre état d'esprit.
Et aujourd'hui...
Et moi, j'ai commencé le bénévolat avec une Américaine.
Je marquerai avec des orientations et je vais lui donner 20 mg d'urbanine.
Nathalie Raffort, vous êtes cadre supérieur de santé à l'hôpital Lariboisière. Vous êtes spécialement déléguée au service des urgences. Comment trouvez-vous le travail que les bénévoles de la Fondation Claude Pompidou font dans la salle d'attente du service des urgences de Lariboisière?
Alors pour nous, c'est quelque chose, c'est une intervention vraiment majeure. Alors elle est majeure à plusieurs niveaux. Elle est majeure pour les personnes qu'on reçoit aux urgences, parce que c'est un véritable appui, accompagnement, parce qu'on a du personnel, en nombre, mais on a beaucoup de travail, hein, puisqu'on est le plus gros service d'urgence adulte de l'Île-de-France. Donc on a à faire face à des flux de patients très très importants.
Ce qui combien fait de patients par jour
entre
à peu près
160 et 200 personnes par jour. Hein. D'accord. Donc ça fait quand même assez important avec des pics d'activité. Hein. C'est un peu la loi du bus. Quoi. De temps en temps, il y a 30 personnes qui arrivent en une heure. Hein. Donc on peut être le nombre qu'on est. Il y a quand même un moment où les gens se sentent, entre guillemets, abandonnés. C'est-à-dire ils ont eu un contact avec un soignant, ils attendent une autre prise en charge et ils sont là un peu comme ça dans l'attente avec quand même des repères qui ne sont pas eux. L'arrivée à l'hôpital, c'est quand même un milieu hostile, c'est un milieu qui est dur. Les urgences, c'est bruyant, c'est plein de va-et-vient. C'est pas facile quand on est...
Oui, on ne comprend pas pourquoi le voisin qui est à côté passe avant vous alors que vous êtes arrivé
voilà,
avant.
Voilà, c'est pas le même circuit. Pourquoi tout le monde est là? Puis l'autre, il passe. Le soignant, je l'ai vu, il est en verre. Mais enfin, il me dit qu'il n'est pas d'ici, etc., etc. Donc, c'est quand même assez dur pour les personnes. Donc, les personnes de la Fondation Claude Pompidou, elles sont là. Elles sont quelqu'un de stable, elles participent à créer une bonne ambiance et à aider les gens dans toute leur dynamique d'attente. Elles nous aident aussi, alors je dis elles sont importantes pour les gens qui sont reçus, et elles sont aussi importantes pour le personnel, parce qu'on a des liens très forts avec elles. Puisque d'abord, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, qu'on a un très bon contact. Ça nous est arrivé de faire des réunions ensemble, discuter des objectifs, de se voir, et elles ont aussi un rôle d'alerte. Cette personne-là est angoissée, cette personne-là attend depuis trop longtemps, est-ce que je peux donner tel renseignement, etc., etc. Donc il y a aussi un lien très fort avec les équipes. Et puis quand les gens ils se sentent accompagnés et rassurés, ils attendent aussi dans de meilleures conditions. Donc ils sont aussi moins demandeurs vis-à-vis du personnel. Donc ça nous facilite aussi notre exercice professionnel.
Bon, enfin.
On vous laisse sur le brancard ?
Non, c'est bon.
Ah, mais si vous reconvoquez, vous serez mieux sur le brancard.
Oh, comme ça, j'aurai le plaisir de revenir vous voir.
Moi, je préfère vous laisser sur le brancard. Allongez, monsieur, il n'y en a pas.
Je suis quelquefois très mal avec l'administration. Quand j'ai voulu faire l'établissement pour personnes Alzheimer, atteintes de la maladie Alzheimer en Bretagne, j'ai eu les pires difficultés avec l'administration.
Donc votre statut social vous sert et vous dessert.
Mais j'ai été aidé par le ministre qui était Bernard Kouchner, qui a très bien compris ma position et qui m'a aidé.
Donc finalement, votre statut social... Par moments vous sert et à d'autres moments vous dessert.
Oui, et vraiment l'administration, c'est quand même très dommage. Mais enfin, on a une administration, il paraît que c'est la meilleure du monde. Je veux bien le croire. Mais on dirait que cette administration est là pour nous empêcher de combler les manques de l'État. Parce que ça, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est des manques de l'État. Quand on fait des établissements comme ça, c'est parce que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors, vous faites votre possible, mais vous tombez sur des barrières administratives qui vous prennent un temps fou, dont vous n'êtes pas sûr que vous arriverez à les résoudre. C'est très difficile. Ça, c'est des mauvais moments.
Donc, l'État, finalement, refuse l'aide du privé, par moment.
Ben non. Si on peut dire, oui. Comme, si vous voulez, il refusait au départ les bénévoles à l'hôpital. Après, ils s'y font, surtout s'ils voient que ça rend service. Oui, alors, je peux vous dire que maintenant, on est dans un peu plus de 70 hôpitaux, et bien on rend service. Ils ont compris.
Jusqu'ici, on était, nous, en tant que soignants, chargés de faire, dans notre mission, de faire aussi de l'animation. Ça fait partie de notre rôle d'être soignant. Mais on a tellement de tâches différentes autres que c'est vrai que souvent l'animation, elle est un petit peu, non pas laissée de côté, mais on la fait quand on a le temps, quand on a un moment, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc les bénévoles, quand elles font de l'animation, elles sont les bienvenues. Et plus elles viendront, et plus la qualité de vie des patients sera mieux. En plus, ça fait un regard extérieur, si vous voulez. Nous, on est un petit peu, on tourne dedans tout le temps. Non, c'est vrai qu'on a une charge de travail importante, c'est-à-dire il y a toujours des gens qui sont malades, qu'il faut tout le temps changer, soigner, etc., etc. Donc on n'est pas toujours disponible pour ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure pour être là, pour discuter à côté d'eux. On pense tout de suite qu'est-ce qu'il y a autre chose à faire. On a moins l'esprit tranquille qu'un bénévole, je pense.
Vous êtes deux à cet étage pour combien de patients ?
Il y a 26 patients.
comment allez-vous?
Comme d'habitude, pas très bien.
Pas très bien?
Non.
Ça vous plairait aujourd'hui de faire un peu de jeu de questions-réponses?
Pas de ça, hein. J'ai pas besoin du courage, surtout un peu...
Oui, vous hein. Trouvez?
Je trouve, j'en suis sûre. Je trouve pas, j'en suis sûre. Alors moi...
Vous préférez rester tranquille?
Voilà.
Bien.
Je suis ici. Il faut que les conneries sont le temps. Hein. L'autre ne m'arrête pas de se lever. L'autre ne m'arrête pas de marcher, d'aller lire. L'autre vient s'asseoir n'importe où. C'est incroyable. C'est un asile psychiatrique. C'est pas,
non,
un,
mais
c'est pas un hôpital ici. C'est un asile psychiatrique.
Un petit
je
peu.
Je confirme.
Il y a un peu de tout.
Il y a un peu de tout. Il y a surtout des pendants. Il y a la dame qui est normale, moi. Mais il y en a là-bas. Elle est bien.
Vous parlez avec madame?
Ah oui, elle est bien.
Bah, vous avez raison.
Oui, j'ai raison.
Bon, je vais continuer à dire bonjour aux autres.
Mais oui, allez-y, vous n'êtes pas pour moi, hein.
Oui.
Peut-être que vous avez l'habitude.
Oui.
Alors, les médias vous prêtent souvent l'image d'une femme mondaine, mais finalement, vous êtes plutôt une femme de terrain.
Je sais pas, oui. Alors, je suis pas une mondaine, on peut pas dire. Je suis sûrement une femme de terrain, oui, volontiers. Je suis pas vraiment une mondaine, mais pour exister, et même ici, il faut se montrer. Il faut se montrer en public. Ça veut dire se montrer dans les grandes réunions mondaines, se montrer à l'opéra, je ne sais pas ce que vous voudrez. Enfin, dans les... Donc, on ne peut pas... il faut être un peu mondaine.
Mais en même temps, quand vous fréquentez des soirées à l'opéra ou certaines soirées prestigieuses, c'est pour pouvoir aussi côtoyer des gens qui peuvent venir en aide à la Fondation.
Absolument. C'est pour ça. C'est ce que je vous dis.
Donc, vous n'arrêtez jamais.
On est obligé d'être un peu mondaine... pour se faire connaître des gens qui, après, peuvent vous aider. C'est ma manière de faire la communication.
Donc vous seriez...
Je ne sais pas faire mieux.
Vous seriez un peu mondaine avec votre fondation en bandoulière.
Voilà.
C'est ça, un peu. Et ça.
Une grosse bandoulière.
Alors, la Fondation organise chaque année un gala.
Monsieur Richard Hutin, directeur général de la Fondation Claude Pompidou.
Qui a lieu sur les Champs-Élysées, avec la projection d'un film en avant-première, suivi d'un dîner au Georges V. Donc, on est là dans les soirées extrêmement prestigieuses. Et l'idée pour la Fondation est de collecter le maximum d'argent en dépensant le minimum. Donc, nous ne faisons ce genre d'opération que si l'on a la certitude qu'il y a un sponsor, une personne, ça peut être une personne privée ou bien plusieurs sociétés qui accepteraient de prendre en charge les coûts d'organisation, parce qu'il y en a naturellement. Mais c'est vrai que pour ce gala, un certain nombre de partenaires offrent la gratuité de la salle de cinéma, le souper. Tout de même, le Four Seasons Georges V, le restaurant de l'hôtel Georges V, offre le souper, ce qui n'est pas mineur, à environ 300 personnes. Donc voilà des frais que nous n'avons pas. Et les frais d'organisation sont pris en charge. Et nous avons récolté l'année dernière 200 000 euros au cours de cette soirée, pour un coût de quelques milliers d'euros. Je crois qu'on n'a pas dépensé plus de 2500 euros lors du gala de l'année dernière. Donc vous voyez que le rapport est extrêmement important. Et on se méfie évidemment des manifestations qui sont très coûteuses à organiser, à la fois financièrement et en temps, et qui rapportent très peu. Donc c'est je dirais, une condition. Le conseil d'administration, bien sûr, est très attentif à ce genre d'opération et ne donne son feu vert que si on a la certitude que c'est vraiment très mineur comme dépense pour la charge de la Fondation.
C'est-à-dire que la priorité des dépenses, c'est vraiment pour aller aux malades, aux soins et à l'aide du malade.
Absolument. La Fondation mobilise des fonds et chaque année doit retrouver... nous avons un budget de 3 millions d'euros pour financer ces structures de bénévolat et pour financer la structure de la fondation, de son siège. Alors c'est pas énorme, nous sommes 13 salariés, c'est une petite équipe, hein, toutes catégories confondues, et l'argent collecté, l'argent que nous mobilisons, eh bien est affecté à ces projets. Disons, on n'a pas de trésor de guerre très important, on sait déjà que le peu que l'on a mis de côté sera affecté à tel projet. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce projet de l'Institut Claude Pompidou à Nice, mais j'aimerais bien pouvoir mener une autre opération similaire dans la région de Lyon. On nous offre un terrain, mais là encore, il faut les moyens en face. Et nous avons également décidé cette année de créer l'extension d'un de nos établissements pour malades d'Alzheimer en Bretagne. C'est aussi 700 à 800 000 euros qu'il faut trouver. Donc chaque année, on essaie de mener à bien ces réalisations en gérant au mieux, encore une fois, la générosité du public et des différents partenaires qui nous font confiance.
Madame Claudine Barlap, vous êtes responsable du mécénat et des partenariats au sein de la Fondation Claude Pompidou.
Oui.
Alors, en quoi consiste cette fonction ?
Le mécénat et le partenariat, ça veut dire que l'on fait appel à des entreprises ou à des particuliers d'ailleurs pour trouver ces ressources. Et cette fonction, donc, au sein de la Fondation de mécénat et de partenariat, est de créer des opportunités avec des partenaires, avec des mécènes, entreprises principalement, grands groupes ou PME, pour les faire adhérer au projet de la Fondation. Alors, le mécénat pour une entreprise peut se présenter de trois manières diverses. Premièrement, un mécénat financier. Vous avez un don en espèces, en entité trébuchante, un chèque. Soit du mécénat de compétences. L'entreprise vous met à disposition soit du personnel qualifié pour vous aider à monter un projet, soit du mécénat de produits partagés. Et à ce moment-là, elle va vous donner des produits ou vous reverser sur tant de produits vendus un pourcentage qui va rentrer dans le projet auquel elle a adhéré. Donc il y a trois formes de mécénat. Ça n'est pas forcément du mécénat que financier.
Alors, à quel moment, Madame Simone Veil, vous avez intégré l'équipe de la Fondation Claude Pompidou ?
Écoutez, il me semble, mais je parle très bon souvenir, frère, il me semble que j'ai dû y entrer dès que ça a été créé, cette fondation.
Dès le début ?
Dès le début, je crois, oui.
Elle est venue vous en parler, elle vous a dit « j'ai besoin de vous », comment ça s'est passé ?
Oui, elle m'en a parlé, elle pensait aussi que peut-être le fait que je sois juriste de profession, en même temps l'expérience sociale que j'avais, était un atout pour l'aider, mais elle n'avait pas besoin. Elle a, je dois dire, nous sommes peu nombreux, c'est pas un très, très grand conseil d'administration, mais qu'elle a elle-même... d'abord choisi des administrateurs qui sont tout à fait excellents et en même temps elle sait, quand elle préside, encore aujourd'hui c'est elle qui préside et qui sait ce qu'elle veut avec des idées très, très arrêtées pour qu'à la fois je dirais ces établissements qu'ils ont donc créés avec le soutien de la fondation soient à la fois bien gérés, répondent à des besoins, parce que c'est important de ne pas disperser de l'argent, dépenser de l'argent pour des vocations mal identifiées et qui sont les plus efficaces possibles avec une attention très grande pour ce qui concerne l'utilisation, la vocation de ces établissements et en même temps la gestion.
Du premier établissement que vous avez ouvert en Bretagne ?
Cardrenel, ça s'appelle. Et c'était un établissement pour enfants moteurs cérébraux, handicapés moteurs cérébraux. C'est terrible. Il y a là-bas des Bretonnes fantastiques qui promènent ces pauvres enfants dans les bras comme si c'était des enfants normaux. Elles sont merveilleuses. C'est pas drôle à voir. C'est même moi, quand j'y vais... Et je suis allé beaucoup de fois, ça me retourne à chaque fois.
Il y a des moments où c'est quand même dur.
Oui, bien sûr. Mais alors, faut pas s'y attarder. Vous savez, c'est ce qu'on appelle s'écouter. Faut pas s'écouter. Parce que si on s'écoute trop, et si on s'attarde trop, eh ben ça nuit à l'action.
D'où vous est venue l'idée d'ouvrir cet établissement? C'était déjà là, dès le départ?
Ça nous a été proposé. Quand nous ouvrons un établissement, c'est un établissement dont le terrain nous est offert, premièrement. Deuxièmement, avec l'appui d'un médecin ou d'un spécialiste local. Et troisièmement, avec l'agrément du ministère de la Santé pour savoir si il y a vraiment besoin de cet établissement dans cet endroit. Et on ne fait pas ça.
Donc aujourd'hui, une collectivité ou quelqu'un qui aurait un projet qui lui tiendrait à cœur d'établissement peut se tourner vers vous,
oui.
Et la Fondation examinera le dossier.
C'est ce qu'a fait le CHU de Nice. Vous savez que nous sommes en partenariat, notre construction à Nice est en partenariat avec le CHU de Nice.
Donc ça, c'est pour l'Institut Claude Pompidou.
Oui, je sais, mais c'est pour vous expliquer comment les choses peuvent se faire. On peut faire ça en partenariat ou sans partenariat.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est la démarche vient du CHU vers vous.
Oui. Ça, c'est difficile parce que nous avons décidé un partenariat et qu'un partenariat entre une fondation privée comme celle-ci et le CHU de la ville de Nice, normalement, ça ne se fait pas. Il a fallu avoir des avocats et ça a été assez long, mais ça a fini par être... On savait que ça finirait bien, d'ailleurs, mais enfin, il a fallu en passer par là pour avoir le droit, la possibilité.
Donc finalement, vous venez d'ouvrir une nouvelle voie d'association entre le privé et le public.
Il y aura peut-être d'autres qui suivront, je ne sais pas. Pour le moment, je pense que je dois être la seule. Et en tout cas, pour moi, c'est très intéressant parce que le CHU de Nice est un appui fantastique. En plus, c'est en plein cœur de Nice. Il y aura quand même 72 lits. Plus un institut de recherche très important et surtout pour essayer de prévoir la maladie avant, à temps. Et ça va être quelque chose de formidable. Ça, je suis très satisfaite de ça et satisfaite que ce soit avec le CHU.
Pourquoi vous êtes intéressée à la maladie d'Alzheimer? Comment est venu votre premier rapport avec la
maladie? Parce que j'ai vu autour de moi, ça, comme tout le monde peut en voir, est-ce que ces malheureux gens, c'est plus rien, c'est des légumes, ils savent même plus s'habiller, ils savent plus. Il faut tout faire pour eux. Et les familles, il n'y a pas de famille ici riche, soit-elle, qui puisse les garder. Et vous savez, il faut deux personnes par malade.
Par malade. Une autre particularité de l'Institut, c'est qu'il y aura l'art aura une grande place.
Oui. Ça, c'est justement le directeur du CHU, qui est M. Robatet, qui a eu cette idée. Et je pense que c'est très, très important. Il y aura des tableaux, il y aura des œuvres, il y aura... Puis, dans la région de Nice, il y a beaucoup d'artistes.
Donc, vous croyez à l'art comme thérapie?
Oh, ça, oui, alors. Oui. Pour les plus petites choses. Si vous n'êtes pas en forme, vous allez au centre, au musée, vous passez une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, vous sortez changé. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait, mais je ne suis pas la seule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le disent.
On va parler d'argent. Pour initier le projet de l'Institut Claude Pompidou à Nice, ça doit prendre des années et des années pour pouvoir réunir une somme. Je crois que la fondation met 4 millions d'euros.
4 millions, oui. C'est-à-dire qu'on a en réalité, ça coûte 16 millions. Donc, moitié, 8. On s'est engagé pour 4, mais je crois qu'on dépassera. Et c'est bien.
Comme ça. Hop, tu les soulèves.
Comme ça.
Sans casser les...
C'est ça.
On tient les autres. Mm-hmm. Sont abîmés.
J'ai un autre petit gars à aller voir samedi, Thibaut, avec qui je m'entends très très bien. Et on fait des musées, on fait des choses comme ça.
Alors par exemple, quand vous l'emmenez au musée, Thibaut, ou un autre enfant. Mmh. Qui paye le musée? Ça se passe comment?
Alors, sur Paris, en règle générale, c'est gratuit pour l'accompagnant et la personne handicapée.
Avec la carte d'invalidité qu'on a, que les parents ont, ça nous permet justement de rentrer gratuitement avec l'enfant, de ne pas faire la queue. Donc pour les enfants, je trouve ça très bien parce que comme ça, ça leur permet de pas trop attendre parce que sur Paris, des fois, c'est des queues de 2 heures. Et le bénévole profite, tout accompagnant d'un enfant handicapé qui est titulaire de la carte, rentre gratuitement.
Mais il y a des frais, par exemple, il y a obligatoirement des frais. La fondation prend en charge, vous rembourse des choses, comment ça
se passe? Les seuls frais qu'il y a, en fait, c'est d'aller de chez moi jusqu'au point où je vais chercher l'enfant handicapé. Bon, ben voilà, c'est les seuls frais que j'ai.
Dans la charte, les parents doivent fournir 2 tickets de métro.
Voilà.
C'est une des conditions qu'on doit remplir, nous, en tant que parents, c'est de fournir aux bénévoles 2 tickets de métro. Qu'il ait ou pas sa carte orange, c'est obligatoire. Et moi, j'y tiens et je le fais à chaque fois.
Monsieur Richard Hutin.
La Fondation Claude Pompidou, j'ai coutume de dire qu'elle a besoin de 2 types d'aide. L'aide humaine tout d'abord, parce que les bénévoles sont indispensables. Sans bénévoles, pas de services rendus au domicile, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. C'est extrêmement important. Et puis nous avons également besoin d'argent, de moyens pour construire ces établissements, pour mener à bien des projets très concrets. Et la façon d'aider, c'est bien entendu le don pour la personne qui le peut, ou bien le legs pour celles et ceux qui souhaiteraient que leur générosité perdure au-delà de leur disparition.
Alors, quand on vous donne 1 euro, comment est réparti cet euro ?
En centimes d'euros, ça va être difficile. Bon, alors, donnez-nous 100 euros.
Je vais vous donner 100 euros pour la Fondation. Alors, comment vont être répartis ces 100 euros ?
100 euros, la majorité, on va dire plus de 5%, et c'est heureux naturellement, vont être consacrés aux établissements, à la partie établissement. Vous savez qu'on a des extensions d'établissements, des travaux de rénovation. Nous sommes propriétaires, donc il y a, pour améliorer la vie quotidienne des personnes âgées ou des personnes handicapées qui sont hébergées ou accueillies dans ces établissements, il y a bien sûr des programmes de travaux. Je crois que bon an mal an, il y a plus de 40%, on va dire 40 euros qui seront affectés à ces établissements. Ensuite, les activités de bénévolat, même si l'activité est bénévole, il y a tout de même des frais, puisque nous avons des structures, des loyers à payer en province, par exemple, et on peut imaginer, puis des campagnes de recrutement de bénévoles, 15 euros, c'est une moyenne également, sont affectés à cette activité. Ensuite, vous avez cette cagnotte que je m'efforce de constituer, et qui peut être de l'ordre de 20 à 30 euros pour justement faire face à de nouveaux projets. Je parlais de celui de Nice, mais il y en a d'autres. Et ensuite, vous avez des frais de fonctionnement qui sont de l'ordre de 12-13%, c'est-à-dire 12-13 euros. Je crois que si on fait le total, on n'est pas loin des 100 euros que vous avez donnés. On est dans la norme à ce niveau-là. Et bien entendu, nous essayons de réduire au maximum les coûts des manifestations ou les coûts d'appel à la générosité du public. Nous ne faisons pas énormément de communication. Donc nous avons, c'est le souhait du conseil d'administration, nous évitons de dépenser trop d'argent dans ce domaine, c'est toujours très tentant, mais nous limitons ce genre de frais. Sachez que la générosité à l'égard de la Fondation Claude Pompidou est gérée au mieux.
Le don est défiscalisable ?
Le don, naturellement, est défiscalisable en hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Donc c'est assez incitatif et il faut en profiter. C'est une mesure importante pour les associations et pour les fondations.
Pourquoi pas aujourd'hui ?
Ce n'est pas votre semaine musicale,
non ?
Mais quelles étaient les chansons que vous aimiez ?
Oh, je ne me rappelle plus.
Il y a 2 événements qui sont importants pour vous et que vous organisez, c'est la rencontre des clubs pour personnes âgées à l'Hôtel de Ville de Paris.
Oh là, alors là, je vais être obligé de dire quelque chose de pas gentil. La ville de Paris n'est pas du tout sympathique avec moi. Et on avait en effet ces réunions pour les personnes âgées qui venaient des clubs, parce que ça, des clubs aussi, en province. Ils venaient faire leur goûter de Noël. C'était une grande joie. Eh bien, ça n'est plus possible.
Ah, vous n'êtes plus accueilli dans les salons de l'Hôtel de Ville.
Non.
Et vous savez pourquoi ou... On vous a rien signifié.
Je ne sais pas. On m'a simplement dit qu'il n'y avait plus. C'était plus la peine de venir, c'est tout.
C'est une attitude un peu cavalière.
Et l'arbre de Noël. Je vous laisse la responsabilité de votre remarque.
Mais je l'assume pleinement. Et l'arbre de Noël des enfants handicapés à l'UNESCO.
C'est la même chose. Le nouveau président de l'UNESCO a refusé de prêter la salle. Parce que nous ne faisions cette fête que dans la salle de l'UNESCO, la grande salle, parce qu'il faut amener des enfants sur des chariots. Enfin, il faut beaucoup de place. Le précédent président de l'UNESCO nous avait toujours prêté la salle. Maintenant, ils la font payer au prix fort. Alors on a arrêté.
Oui, ce qui est une...
Je suis privé de deux genres de réunions que j'aimais bien, qui me récompensaient un peu de ce que je faisais.
Hey, si, je dors, moi.
Tu dors en bas, toi. Tu dors pas en haut.
Quand j'aurai un travail, etc., si je continuerai, ben, ça dépendra des heures que j'aurai à faire. Mais je pense qu'on ne peut pas commencer quelque chose et arrêter du jour au lendemain comme ça. C'est pas possible.
Ben, ça fait partie de votre épanouissement.
Oui, totalement. Une fois qu'on donne, on ne peut pas reprendre, hein, tout simplement. Donc des gamins qu'on voit périodiquement comme ça, régulièrement, c'est... Non, ça serait dommage, quoi. Ça serait avoir ouvert une porte et puis claquer la porte comme ça, ça serait vraiment pas joli. Donc,
même moi, en tant que maman d'enfants handicapés, de la manière où ça se passe au niveau de la fondation, du sérieux, du bénévolat, de tout ce qu'on peut côtoyer, qui sont très sympas, ouverts, réconfortants, j'ai même dit que si moi j'avais la possibilité d'avoir ne serait-ce que 2 heures pour consacrer à un autre enfant, je le ferais. Je serais prête à faire ce que Hugues fait, c'est-à-dire que je me sens complètement aussi, je peux être investie par rapport à ce que la fondation apporte et le bonheur qu'ils m'ont apporté à moi. Et je me dis que si j'avais 2 heures, je pourrais le faire aussi pour un autre enfant que je ne connais pas aujourd'hui.
Donc on peut imaginer que quand Jérémy et Alexandre seront adultes et en âge de travailler, vous pourrez le faire.
Peut-être même avant.
C'était Sur les docks, Madame Claude Pompidou, la première des premières. Je tiens à remercier toute l'équipe de la Fondation Claude Pompidou, sans qui ce documentaire ne pourrait exister. Et merci aussi à tous les patients et les aides-soignants de l'hôpital Charles Foy, à tout le personnel du service des urgences de l'hôpital Lariboisière, ainsi qu'à la famille Evano pour nous avoir ouvert les portes de leur quotidien. Vous pouvez joindre la Fondation Claude Pompidou au 42 rue du Louvre, 75001 Paris, ou au www.fondationclaudepompidou.fr. C'était une émission de David Arthur, à la prise de son Loïc Duros, Georges Thau et Thomas Coudreuse, au mixage Noélie Pellegrin et à la réalisation Vanessa Nadjar.
C'est qui vient de la radio.
Ah bon ?
Je ne connais pas, moi, ce
problème. Vous ne le connaissez pas, non ?
Ça ne m'intéresse pas.
Non, oui.
Bon.
Vous ne voulez pas me dire bonjour aujourd'hui ?
Si, bonjour.
Oui.
Ah, écoute, on va s'agir. Oh non, on l'aime bien. Faut pas m'en vouloir, mon chéri. Eh non, écoute.
Bonjour, monsieur Avexer.
On va faire un
coup. Rebonjour.
Mon Dieu. Je te reverrai. Reviens.
Vous écoutez France Culture.
L'émission est disponible gratuitement en réécoute et podcast sur le site de l'heure du documentaire où nous espérons vos commentaires. Demain, rendez-vous à 17h pour suivre des femmes migrantes. À 18h, ce sera le journal de la rédaction et tout de suite, musique maestro.